le 5 mai, à la fête de Saint-Pie-V, j'avoue que ça, c'est le hasard de la Providence. Simplement parce que c'était le premier lundi libre, après toutes les conférences déjà prévues. Il se trouve que c'est pas un mauvais patronage quand même, je pense, pour parler de la messe de Paul VI, que de se mettre à l'abri de Saint-Pie-V, justement, que nous fêtons aujourd'hui. Alors nous avons, pendant tout notre cycle de conférences, nous avons essayé de comprendre un peu le dogme, car il s'agit d'un dogme, le dogme catholique de la messe, ce qu'est la messe pour l'Église, quelles sont les définitions, quelle est la réalité de la messe, telle que l'Église l'a compris et telle que notre Seigneur l'a instituée, et telle que l'Église l'a institutionnalisée, si vous voulez, dans ce rite que l'on appelle donc le rite de Saint-Pie-V. Et je crois que c'est la meilleure réponse que l'on puisse faire à tous les arguments en faveur du nouveau rite de la messe. Vous savez, c'est d'avoir compris ce qu'était la messe, d'avoir compris la richesse, la force, la puissance de la messe telle que l'Église l'a pratiquée pendant toute sa vie, ou presque. C'est la meilleure réponse que l'on puisse faire face à ce vide, on peut dire, qu'est le nouveau rite. Mais je dirais un des éléments un des constats d'échec du rite, du nouveau rite, eh bien, c'est le recours au charismatisme. Parce que c'est vide, c'est creux, c'est sec, c'est triste, c'est morne, on s'embête, etc. Alors on cherche quelque chose qui nous remue un petit peu, qui nous donne l'impression de prier, etc. Et c'est pourquoi le charismatisme apparaît aux dirigeants de notre Sainte Église, bien apparaît comme l'espérance, effectivement, de l'Église, pour essayer de ramener quelques gens égarés dans nos temples désertés. Je crois que c'est là le plus bel aveu d'échec de ce nouveau rite. Alors ce que je voudrais faire ce soir, ce n'est pas refaire une démonstration qui a déjà été faite 10 fois, 20 fois, 100 fois, et de façon beaucoup plus approfondie, beaucoup plus savante, que je ne le ferai ce soir. Pour cela, je vous renvoie à toute une série d'ouvrages qui ont été publiés depuis 20 ans. Les plus intéressants, je crois, vous avez celui de Louis Salleron sur la Nouvelle Messe. Vous avez la plaquette de M. Raffard de Brienne sur la Nouvelle Messe et la foi. Vous avez bien sûr... Vous avez le dossier de l'action familiale scolaire sur le sacrifice de la messe dans la nouvelle catéchèse, le nouvel ordo. C'est intéressant de voir comment, précisément, la doctrine qu'on enseigne aux enfants, eh bien, est la même que véhicule le nouvel ordo. Vous avez également une publicité pour la maison, quand même, aux éditions Fidélitaires, le mouvement liturgique de l'abbé Bonneterre. Et je crois les deux ouvrages les plus intéressants et les plus solides. Eh bien, c'est d'abord le bref examen critique, présenté par les cardinaux Ottaviani et Bacci, à sa sainteté le pape Paul VI, dans lequel, eh bien, il lui disait quand même, pour commencer, cette chose qui aurait dû le faire réfléchir. Eh bien, si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses, qui y paraissent sous-entendus ou impliqués, donc le nouvel ordo missé s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Bon, quand même, c'est pas mal. Bon, puis ensuite, vous avez toute une étude beaucoup plus détaillée, très théologique et très très forte de ce nouvel ordo. Et puis vous avez un ouvrage de Arnaldo Xavier da Silveira, qui est sans doute ce qu'il y a de mieux comme étude théologique de la Nouvelle Messe. C'est un ouvrage qui se compose de deux parties. Je ne citerai ce soir que la première, quoique la deuxième ne soit pas inintéressante. Mais enfin, ce n'est pas le propos ce soir. Et je veux pas. Deuxième partie, qui traite de l'hypothèse théologique d'un pape hérétique. Je n'en dis pas plus. Hein. C'est une hypothèse théologique qui a été étudiée par des grands théologiens. Et ce brave monsieur da Silveira en fait le relevé. Et c'est intéressant. Enfin, ce soir, ce qui nous intéresse, donc c'est la première partie. Et c'est vraiment, je crois, au plan théologique, ce qu'il y a de mieux, de plus complet. De plus complet. Vous avez tout, pratiquement, tous les éléments pour discerner bien, ce qu'il y a de catholique et ce qu'il y a de non-catholique dans le Novus Ordo. Et puis, bien sûr, l'ouvrage de base. L'ouvrage de base, eh bien, c'est ça. C'est sûr, ça. C'est de cela que nous parlerons ce soir. C'est l'Ordo Missae, tel qu'il a été promulgué le 3 avril 1969 par Paul VI. Bon, c'est de cela que nous parlerons. Je ne ferai pas, donc, une analyse de l'origine, les auteurs et pourquoi ceci. Il y avait des protestants, des juifs, des francs-maçons qui ont collaboré à ceci. Je ne ferai pas une analyse de l'intention des auteurs, etc. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais on n'en finirait plus. Ça a déjà été fait. Je me contenterai ce soir d'examiner le rite. Le rite lui-même, tel qu'il existe, tel qu'il nous a été donné, tel qu'il a été promulgué par Paul VI, et tel qu'il a été explicité par ce qu'on appelle l'Institutio Generalis, l'institution générale, qui était le document d'introduction de ce rite. Il faut regarder les deux, le rite lui-même et le texte qu'il introduit, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'est ce rite-là que l'on nous propose donc depuis maintenant 15 ans, 17 ans. Que penser de ce rite? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-il mauvais? Jusqu'à quel point? Est-il bon? Jusqu'à quel point? Est-il moins bon? Est-il intrinsèquement mauvais? Oui, bon, il y a tout un tas de jugements que l'on peut porter sur lui. Est-il simplement un peu moins bon que l'ancien? Ou bien est-ce qu'il est vraiment mauvais? Intrinsèquement mauvais, perverti et donc pervers. Il est pervertissant, si plus est, c'est sûr. Et pour cela, il suffit de regarder le texte en lui-même. Hein. Alors, il est certain que c'est un travail qui est un peu difficile, parce que un rite, une cérémonie, un ensemble de gestes, de paroles, de mouvements, etc., c'est une chose qui est assez difficile à juger. Juger une doctrine, c'est clair, c'est simple. Juger un propos, une parole, un acte, c'est facile. Mais alors, juger un rite, oui, c'est composé de tellement d'éléments disparates, oui, que pour porter un jugement simple sur une chose pareille, eh bien c'est difficile. Alors je vous dis pas que nous y arriverons, je vous dis pas non plus que l'analyse de ce soir sera exhaustive et que nous aurons tranché de façon définitive. J'essaierai simplement de vous apporter quelques lumières sur quelques réflexions sur ce rite. Et puisque nous faisons quand même de la théologie de la messe, il faut donc se fatiguer un petit peu, essayer de faire un petit peu de théologie, et donc un peu de philosophie. Nous ferons cette analyse du rite à la lumière de la métaphysique, attention, non pas des grands mots, à la lumière de la métaphysique du signe et du sacrement. Parce que la messe est un sacrement. La messe est un sacrement. L'Eucharistie est un sacrement, et en tant que sacrement, eh bien, elle répond à une certaine définition qui correspond à tous les... qui convient à tous les sacrements. Et il est bon, peut-être, avant... Justement, c'est à cette lumière-là que je voudrais regarder un peu ce rite. Un sacrement est un signe sensible qui réalise ou qui signifie une réalité qu'il produit. Saint Sacrement. Reportez-vous tout simplement au Concile de Trente et toute cette première partie. En fait, je pourrais me contenter de vous dire, allez lire le Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente, deuxième partie des sacrements, chapitre 14e, explication du mot sacrement, etc., etc., etc. Bon, vous avez tout là-dedans. Bon, enfin, on va essayer de l'expliquer un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'un sacrement? Bien, vous avez plusieurs approche de la définition de la chose. Une chose sacrée, inconnue et mystérieuse. Et les docteurs latins, nous dit le catéchisme, ont pensé que certains signes sensibles qui produisent la grâce, vous voyez déjà, signes sensibles qui produisent la grâce, en même temps qu'ils la représentent et la mettent sous les yeux, pouvaient très bien s'appeler sacrement. Oui, produit la grâce et en même temps met sous les yeux la grâce qu'ils produisent. La grâce étant quelque chose qui, par définition, est invisible, insensible, imperceptible, eh bien, il faut la rendre sensible, la rendre perceptible d'une certaine façon. Et c'est là le rôle du sacrement, produire la grâce et en même temps la rendre sensible, afin que les hommes voient qu'effectivement la grâce est produite, que l'on sache si la grâce est produite ou non. Et l'homme a besoin de certitude. Et les sacrements sont nécessaires au salut. Donc il faut que les hommes soient certains d'être baptisés, qu'ils soient certains d'avoir reçu l'Eucharistie, d'avoir reçu le corps et le sang de notre Seigneur, etc. Il faut des certitudes. D'où la nécessité des sacrements, pour que l'on voit que les hommes soient certains d'être justifiés, d'avoir reçu la grâce. Et Saint Grégoire le Grand dit que le nom de sacrement leur a été donné parce qu'il renferme sous une enveloppe corporelle et sensible une vertu divine qui opère invisiblement le salut. Oui, enveloppe corporelle et sensible, une vertu divine qui opère invisiblement le salut. Toujours ces deux annuts, ces deux éléments. Saint Augustin, le sacrement est le signe d'une chose sacrée, signe visible d'une grâce invisible instituée pour notre sanctification. Et le catéchisme continue un peu plus loin. Pour faire mieux comprendre encore ce que c'est qu'un sacrement, il faut ajouter que c'est une chose sensible, oui, toujours, chose sensible, à laquelle Dieu a voulu attacher la vertu de signifier et en même temps de produire la justice et la sainteté. Et signifier et produire. Et ça, c'est capital. C'est capital. C'est capital. On pourrait finir la conférence en disant, bon, ben, que signifie le rite des nouvelles messes? Regardez, allez assister à la nouvelle messe. Que signifie le rite de la nouvelle messe? Qu'est-ce qu'il vous rend sensible? C'est tout. Et vous aurez compris. Vous aurez compris, eh bien, quelle est la grâce qu'il réalise? Quelle est la grâce qu'il produit? Est-ce qu'il produit une grâce? Ou est-ce qu'il n'en produit pas? Et s'il en produit une, quelle est cette grâce qu'il produit? Il faut regarder la signification, vous voyez, de ce rite. Alors, c'est ça, bien sûr, qui est difficile à discerner. Et c'est cela que nous allons essayer quand même de cerner. Vous voyez, dans le signe, puisque le sacrement est donc un signe, bien il faut distinguer deux éléments. Un élément matériel, là on fait de la philosophie, hein, les philosophes savent déjà tout ça, bien sûr. Un élément matériel, et puis un élément formel. Attention, non, pas des mots terribles. Un élément matériel, et bien c'est simplement la chose en elle-même. Le signe, oui, bon, ben, tout signe est d'abord une réalité, une certaine réalité. La fumée, par exemple, est le signe ben, qu'il y a du feu. Bon, ben, la fumée, c'est d'abord de la fumée. Avant d'être le signe du feu, c'est d'abord de la fumée. Voilà. Donc ça, c'est l'élément matériel, c'est la chose en elle-même. Bon, ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le signe formel, c'est-à-dire le signe en tant que signe. C'est la signification de la chose. Quelle est la signification de la fumée? Eh bien, c'est qu'il y a du feu. Bon, ça va, pas trop compliqué. Ça va encore. Personne ne craque. Bon, alors on continue. Voilà, il y a toujours nécessairement ces deux éléments dans tout signe. Un élément matériel, et ça, je dirais tout peut être signe. Tout peut être signe dans ce cas-là. Et c'est là que nous arrivons à une autre classification des signes. À une classification des signes, plutôt, nous distinguons trois sortes de signes. D'abord, des signes naturels. Il y a des signes naturels. Vous allez Vous allez sur la plage, ou bien, je ne sais pas où, moi, n'importe où, peut-être pas sur la plage, mais vous allez en forêt, bon, il y a un chemin de terre, et puis vous voyez des traces de pas, ou de je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, tiens, ben voilà, il y a, je ne sais pas quoi, moi, un éléphant qui est passé par là, ou bien il y a un homme, ou bien un cheval, ou bien, bon, vous avez une trace, voilà l'objet matériel, l'élément matériel, eh bien, qui est le signe naturel, ben, de celui qui a fait ce style, de celui qui est passé là. C'est un élément naturel. La fumée est un signe naturel. C'est dans la nature des choses, et bien que telle réalité désigne une autre réalité qui n'est pas présente, qui n'est pas là, hein, qu'on ne voit pas. Oui. Bon, ça c'est pas très compliqué. Et puis ensuite, vous avez les signes qu'on appelle les signes conventionnels, qui sont des conventions. Alors là, et bien c'est tout un tas de choses. Ce sont des gestes, ce sont des mots, par exemple les mots. Les mots que nous utilisons sont des signes conventionnels. Mais c'est parce que c'est une convention qui est établie entre les hommes que tel mot a telle signification. Tel mot veut dire telle chose. Tel mot désigne telle réalité. Oui, c'est une convention. Le langage, les gestes, les drapeaux, drapeau bleu, blanc, rouge, bon. Naturellement, ce n'est pas le signe de la France. C'est une convention, ça, tout simplement. Je n'en dis pas plus. Bon. Enfin, tous les signaux, si vous voulez, qui servent à ces communications entre les hommes, qui sont parfois naturels et parfois conventionnels, et qui le plus souvent sont d'une troisième catégorie, qui sont mixtes. Qui sont mixtes, c'est-à-dire qui mélangent les deux. Et généralement, oui, il est plus facile d'établir une convention à partir d'un élément qui déjà naturellement s'y prête. On utilise plus facilement comme signe de communication sociale, oui, des matériaux qui déjà par eux-mêmes, par leur nature, se prêtent à la signification qu'on veut leur porter, qu'on veut ajouter. Oui. Voilà, en gros, et d'ailleurs la plupart des signes conventionnels sont mixtes. Tous les signes dont nous, ou presque tous les signes dont nous nous servons pour communiquer entre nous sont généralement des signes conventionnels. Oui. Même le langage, bien sûr. Il y a une certaine convention, mais qui au départ, bien, est partie, je ne sais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste de la formation de la langue, mais est partie peut-être de certaines onomatopées, oui, bon, qui désignent quelque chose, oui, désignent des sentiments, des émotions, etc. Et c'est petit à petit que ceci a évolué et a donné bon, le langage conventionnel tel que nous le connaissons. Mais au départ, il y a un fondement qui est naturel. Et parmi tous ces signes, ben, il y en a un qui est encore plus compliqué, qui s'appelle le symbole. Le symbole, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Eh bien, c'est un signe mixte, oui, donc qui mélange les deux, réalité naturelle et réalité conventionnelle. C'est un signe qui est mixte, qui a une finalité sociale et qui a pour but de signifier une réalité spirituelle, oui, de rassembler, si vous voulez, une société, un membre d'homme, autour d'une réalité spirituelle. Et ça, un symbole. Un symbole est toujours le signe d'une réalité spirituelle. Et qui est signe pour une société. L'élément matériel, eh bien, de ce symbole sera l'ensemble, un ensemble de réalités variées. Des cérémonies, des chants, des gestes, des couleurs, des parfums, tout ce que vous voudrez, tout un ensemble de réalités variées. Et l'élément formel, oui, celui qui va donner la signification au symbole, eh bien, c'est cette signification sociale. Et qui va donner cette signification sociale au symbole? Eh bien, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Et c'est celui, justement, qui veut rassembler la société autour d'une certaine réalité spirituelle qui va donner au symbole, à l'ensemble de ces réalités, leur signification. C'est l'autorité qui... C'est l'institution, si vous voulez, de l'autorité qui détermine de façon ultime la signification d'un symbole. Il lui donne son existence sociale, officielle, sa raison d'être. Et tous les symboles que nous utilisons, que ce soit dans la société civile ou dans la société religieuse, sont tous institués par l'autorité. Ils ont pu naître petit à petit par la coutume, oui, selon le contexte historique, et ensuite ils sont soit repris par l'autorité, assumés donc par l'autorité, soit définis, si vous voulez, institutionnalisés par l'autorité. En dernier ressort, c'est toujours l'autorité qui donne au symbole sa signification ultime. Alors qu'en est-il du sacrement ? Le sacrement qui est un symbole. Si vous voulez, qu'en est-il du symbole sacramentel ? Eh bien, il y a dans le sacrement un élément matériel, bien sûr. Dans tout sacrement, il y a un élément matériel, c'est-à-dire, bon, c'est la chose en elle-même, ou l'ensemble des choses en elles-mêmes, oui, indépendamment de leur signification. On ne parle pas de la signification. Et dans cet élément matériel, il faut toujours distinguer, et ceci pour tous les sacrements, une partie essentielle et une partie non essentielle ou accidentelle. La partie essentielle, eh bien, c'est celle sans laquelle il n'y a pas de sacrement. Par exemple, l'élément matériel pour le sacrement du baptême, eh bien, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est le geste du ministre. Ce sont les paroles, ego te baptizo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Là, c'est l'élément purement matériel. C'est ce qui constitue la matière, donc l'élément matériel du sacrement. C'est le ministre, c'est le sujet même. Vous voyez, tout cet ensemble de réalités matérielles qui sont essentielles donc au sacrement et sans lesquelles il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas un sujet à baptiser, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas l'eau versée sur le front, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas les paroles, il n'y a pas de sacrement. Vous voyez, la partie matérielle, essentielle, nécessaire au sacrement. Et puis ensuite, vous avez une autre partie matérielle, sous les d'autres matières du sacrement. Bien, ce sont toutes les autres prières, toutes les autres actions du ministre ou du sujet qui ne sont pas nécessaires au sacrement, mais qui sont là pour expliciter la signification du sacrement, hein, qui vont servir justement à la signification du sacrement, pour lui donner sa dimension de signe et de symbole. Il ne suffit pas d'avoir de l'eau, un ministre, un enfant, etc. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut encore qu'il y ait cet élément qui va constituer toutes ces choses matérielles dans l'ordre du signe. Donc un élément essentiel et un élément ou des éléments qui sont accidentels, qui vont servir simplement à expliciter la signification. Et puis ensuite, vous avez donc l'autre élément, c'est l'élément formel, celui qui va donner la signification. Donc, et qui va donner la signification à ces éléments matériels, eh bien, ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas celui qui donne le sacrement. Et ce n'est pas le ministre du sacrement qui donne à ces éléments matériels leur signification. Le ministre ne peut rien changer à la signification du sacrement. Le ministre, la seule chose qu'il puisse faire, c'est faire qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas sacrement. Mais ce n'est pas lui qui peut changer la signification du sacrement. Il n'est pas l'autorité, ce n'est pas lui qui a institué le sacrement. Lui, tout ce qu'il peut faire, puisqu'il est ministre, il est là, si vous voulez, au service de l'autorité qui a institué le sacrement, il est là pour faire qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas sacrement. Mais il est impuissant, il ne peut pas. De lui-même, comment le peut-il ? Il ne peut pas modifier, changer la signification du signe, la signification du sacrement. Il peut même ignorer la signification du sacrement. C'est le cas du baptême donné par un païen. Un païen peut très bien donner le baptême. Un juif peut donner le baptême. Tout le monde peut baptiser un enfant. Il suffit simplement de vouloir faire, eh bien, ce que veut faire justement celui qui a institué le sacrement. C'est tout. Il peut très bien ignorer donc la signification de ce qu'il fait. Le sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? Bon, Tu veux que je te baptise, terminé, crac, boum, c'est fini. La seule chose qu'on lui demande, c'est de vouloir, voyez, de vouloir ce qu'a voulu l'autorité qui a institué le sacrement et qui lui a donné justement sa signification. Même s'il ignore, le sacrement est réalisé. Peu importe donc que le ministre ou les connaisse ou ignore la signification, ce n'est pas lui qui peut la modifier. La signification vient, vient de la nature même du sacrement, de la façon dont il a été institué, de tout ce qui compose donc le sacrement. Et la signification donc de ce rite sacramentel, eh bien elle vient de choses multiples. Elle vient d'abord d'éléments naturels. Elle vient d'éléments naturels, bon, l'eau par exemple, l'eau, qui est signe de purification. Donc il y a déjà un élément naturel, vous voyez, une sorte de signe naturel qui est utilisé. Il y a ensuite la signification des paroles et des gestes qui concourent, vous voyez, à accroître cette signification. Et il y a aussi, et surtout peut-être dans la partie non essentielle, la partie accidentelle, eh bien tout un ensemble de circonstances historiques qui ont contribué justement à expliciter la signification du sacrement. D'où l'importance justement de la tradition liturgique. L'importance de la tradition liturgique. On n'a jamais vu dans l'Église, ceci ne s'est jamais, jamais, jamais produit, nous n'avons jamais vu l'invention d'un rite sacramentel. Non, ceci, c'est une longue tradition, justement, bon, qui a une signification essentielle, reçue de Dieu, reçue de notre Seigneur, bon, qui ensuite a été explicitée par l'Église, mais ceci a été forgé très, très lentement par l'Église, mais l'Église n'a jamais inventé un sacrement. L'Église ne peut pas inventer un sacrement. Parce qu'il y a enfin ce troisième élément, hein, toujours, qui est l'institution. L'institution est là pour les sacrements. Et il y a une petite difficulté supplémentaire, eh bien, c'est que l'institution est double. Il y a l'institution divine et l'institution ecclésiastique. L'institution divine et l'institution humaine, si vous voulez. L'Église est là, elle, pour recevoir. L'Église a reçu sous le sacrement institué par Dieu, et l'Église n'ajoute rien au plan de la signification. Elle n'ajoute rien au plan de la signification, elle ne fait que expliciter ce qui est déjà déterminé par Dieu, par l'institution divine. Le sacrement est d'institution divine, c'est Dieu qui a donné sa signification au sacrement, et l'Église dans ses rites, dans sa liturgie, dans sa prière, eh bien, explicite la signification. Mais ce n'est pas elle qui détermine la signification. C'est Dieu, ça. Et là, il y a donc difficulté supplémentaire, si on peut dire. C'est que la signification est déterminée par Dieu, par l'institution divine, et l'Église, elle, reçoit ce sacrement et explicite au profit des hommes cette signification qu'elle a reçue. Alors, c'est là qu'elle peut ajouter, bien sûr, et c'est ce qu'elle a fait, qu'elle peut ajouter autour de ce qu'il y a d'essentiel et qu'elle a reçu de notre Seigneur, eh bien, elle ajoute, bien sûr, des rites, des prières, des gestes, des cérémonies, pour expliciter la signification. Mais elle ne peut pas, elle ne doit pas, en tout cas, changer, justement, la signification qu'elle a reçue de l'institution divine. Voyez, d'où l'importance de la liturgie, l'importance, justement, de toutes ces questions de réforme liturgique que l'Église a toujours fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de prudence, pour ne jamais trahir la signification primitive qu'elle a reçue de notre Seigneur. Alors si, bon, c'est un peu rapide tout ça, mais enfin, allez lire le catéchisme du Concile de Trente, vous aurez l'essentiel de ceci. Si nous essayons maintenant d'appliquer cela, eh bien, il faut y venir quand même à notre novus ordo missae. Ce nouvel ordo, qui est donc un symbole, comme toute action liturgique, eh bien de quoi est-il le symbole? Eh bien on peut examiner ces différents fondements matériels, si vous voulez, d'abord, quelle est la matière qu'utilise le novus ordo. Eh bien là, Dieu merci, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. La matière est toujours la même. Il faut toujours un ministre ordonné par l'Église. Il faut toujours du pain, du vin.
Bon, puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il faut. Essentiellement, c'est à peu près tout ce qu'il faut.
Et puis l'intention, comme bien sûr, du ministre, hein, de faire ce que l'Église veut faire, donc de réaliser le sacrement tel que l'Église veut qu'il soit réalisé. Donc, de ce côté-là, eh bien, nous avons quand même tous les éléments de l'Eucharistie. Il n'y a pas d'innovation au plan, vous voyez, de l'élément matériel du Novus Ordo. Maintenant, si nous regardons l'élément conventionnel, donc l'élément significatif ou significateur, ou bon, dites comme vous voudrez, donc ce qui va donner sa signification à cet élément matériel, eh bien là, il faut... C'est un peu moins simple, c'est sûr, c'est même beaucoup plus compliqué. On observe d'abord des éléments catholiques, quand même. Il y a des fondements, il y a des éléments catholiques qui viennent de la messe traditionnelle. Bon, c'est vrai, il y a quand même des parties qui ont été conservées de la messe traditionnelle et qui donc, pris isolément, pris en tant que telles, ont une signification catholique. Pas de problème. Bon, très bien, c'est vrai, il y a quand même des éléments catholiques. Bon, on va aller voir, hein, vous verrez, c'est vrai, il y en a. Bon. Et puis, il y a d'autres éléments, quand même. Il y a aussi d'autres éléments qui viennent s'ajouter. D'autres éléments dont il faut dire quand même qu'ils ne sont pas catholiques. Qu'ils ne sont pas catholiques. Et qui vont justement, vous voyez, modifier la signification du rite, la modification de la cérémonie. Voyez. Il y a d'abord, eh bien, des éléments qui sont protestants. Et ceci, de toute façon, hein, je vous parle, moi, du rite, hein, des prières, hein, qu'il y a dedans. Je ne parle pas du tout de ceux qui l'ont fait, ça ne m'intéresse pas, mais dans le rite lui-même, il y a des éléments qui sont protestants et qui sont positivement protestants. Des choses qui sont d'origine protestante ou d'inspiration protestante. Tout d'abord, eh bien, sous le rapport de la vérité du sacrifice propitiatoire, est-ce que nous avons là un vrai sacrifice ? Et cela, c'est quand même une chose qui nous divise avec les protestants. Quant à la vérité du sacrifice propitiatoire, est-ce qu'il y a un sacrifice véritable, vrai en toute vérité, ou simplement spirituel, oui, mémoire, on se souvient, on se rappelle, etc. Bon. Est-ce qu'il y a donc cette vérité du sacrifice ? Et bon, le Concile de Trente nous oblige à y croire. C'est un dogme de foi, c'est défini, il faut croire qu'il y a le sacrifice de notre Seigneur en vérité. Eh bien là, il y a des éléments qui contredisent ce dogme de la foi catholique, notamment le mode récitatif. Le mode récitatif. Qui donne le mode récitatif, c'est-à-dire que le prêtre, lorsqu'il dit la prex eucharistica, la prière eucharistique, eh bien le prêtre récite. Il récite. On vous parle de récit de l'institution. Voyez. Et il le dit, bon, c'est une autre question, il le dit à voix haute. Vous voyez, donc ce qu'on appelle le mode récitatif, le prêtre récite. Et ceci donne une signification de mémoire et non pas de réalité présente à ce que dit le prêtre. Vous voyez, cela signifie simplement, eh bien, si je prends les paroles de la consécration, bon, on va les prendre en français, ça doit être plus facile. Ça fait mal. On va essayer de le dire quand même. Bon. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Voilà, je vous ai raconté ce qu'a fait notre Seigneur. C'est bien, hein, c'est beau. Voilà, c'est tout. Mode récitatif, eh bien, je vous raconte ce qu'a fait et ce qu'a dit notre Seigneur. Alors que le mode que l'Église employait et emploi, je crois, toujours, eh bien, c'est un ton significatif qui signifie ce que disent les paroles. Ouais. C'est-à-dire que le prêtre, à ce moment-là, au lieu de raconter, et d'ailleurs la typographie même l'indiquait, puisque à la suite du mot « dicens », vous voyez, « deditque discipulis suis dicens », pardon, « accipitet manducate exocomnes », la liturgie catholique, le missel de Saint-Pie V, met un point. C'est fini. Là, le récit est terminé. Point. Et là, on passe au mode significatif, où là, le prêtre ne dit pas ce qu'a fait le Christ, mais il est le Christ confectionnant. Christum conficientem, dit saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est le Christ qui est en train de faire quoi hoc est corpus meum, de faire eh bien, ce que signifient les paroles « ceci est mon corps » ou bien « ceci est mon sang ». Et ça, c'est déjà, vous voyez, l'introduction donc, du mode récitatif et l'introduction d'un caractère protestant. Au lieu de signifier que le Christ est en train de dire ses paroles, et ça, en fait, vous voyez, ce que dit la liturgie catholique, la messe de Saint-Pie-V, c'est notre Seigneur qui est en train de dire ses paroles. On ne raconte plus, non, c'est fini, le récit est terminé. Maintenant, c'est notre Seigneur qui prend la parole et qui dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Là, le mode récitatif, eh bien, je vous dis, voilà ce qu'a fait, voilà ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez un détail également dans les prex secunda, tertia, enfin, les prières 2, 3 et 4. C'est un détail, bien sûr. Oh là là, ça foisonne de détails, cette affaire-là. Mais bon. C'est dans la consécration du calice. La consécration du calice, et vous l'avez dans les trois prières eucharistiques, donc 2, 3 et 4. Accipiens calicem, pour la consécration du vin. Alors que le canon romain et le canon celui que nous avons, dit « accipiens unc calicem ». Bon, peut-être pas tout à fait dans la forme, enfin voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, prenant ce calice, il y a l'ajout du démonstratif « unc calicem ». Prenant ce calice, et le prêtre prend le calice à ce moment-là. Vous voyez, pour signifier l'identité du calice. C'est le même calice, c'est ce calice qu'a pris notre Seigneur, ce calice que je prends, moi, prêtre. Unc calicem, oui. Accipiens unc calicem. Et bien là, on a fait disparaître le unc, prenant le calice. Lequel? Il n'est pas dit que ce soit celui-là. Il n'est pas dit que ce soit le même. Hein. Donc il y a négation, au moins implicite, de l'identité du calice. Déjà, deux éléments. Ceci, c'est vous voyez, sur la nature même du sacrifice, de la vérité du sacrifice. Est-ce que vraiment c'est là le sacrifice de notre Seigneur? Oui. Le mode récitatif déjà le nie, ou l'empêche, si vous voulez, ou en tout cas ne le signifie pas. Il ne le signifie pas, au moins. Oui. Et puis cette suppression dans les prières 2, 3 et 4 du Unc Calicem, oui, signifie, ou ne signifie plus plutôt, l'identité du calice. Maintenant, du côté de celui qui réalise l'Eucharistie, celui qui opère. Oui. La définition du dogme de l'Église, c'est que c'est notre Seigneur qui est le prêtre souverain, qui opère instrumentalement par le prêtre. Oui, c'est Jésus-Christ qui est le souverain prêtre, qui opère, qui agit. Lorsque le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », ce n'est pas le prêtre qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle, c'est la parole de notre Seigneur qui agit par le ministère du prêtre pour réaliser ce qu'elle dit. Oui. Donc c'est notre Seigneur qui opère instrumentalement par le prêtre et au moyen de la forme sacramentelle. Eh bien, dans ce nouveau rite, nous avons une exaltation du rôle des laïcs et même des femmes. Pas plus. Le prêtre, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est président et non plus médiateur. Tout ça, c'est des choses que vous savez, ouais, mais je crois qu'il n'est pas mauvais de les ordonner un petit peu. Le prêtre n'est plus médiateur. Il ne fait plus le relais entre les fidèles et Dieu. Non, il est président. Il est le premier. Il est assis devant et c'est lui qui anime la prière, qui anime la liturgie. Mais son rôle de médiateur n'apparaît nulle part. On ne le voit nulle part apparaître, ce rôle de médiateur. Le canon est dit à voix haute. Ça a l'air de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, canon dit à voix haute? Ça veut dire prière commune. Prière commune. Et non pas prière sacerdotale. Nous verrons un peu plus loin ce que dit saint Thomas d'Aquin là-dessus. cette question, vous voyez, des paroles dites à voix basse ou dites à voix haute. Et puis, vous avez dans les prières, toujours, bien sûr, les plus ennuyeuses, eh bien, ce sont les trois prières eucharistiques qui ont été rajoutées. Hein, c'est sûr, celles qu'on est allé nous sortir, on ne sait pas trop d'où, qu'on nous a fabriquées, sont beaucoup plus vénéneuses que le canon romain, qui, malgré tout, n'est pas parfait. Hein. Dans les prières 2, 3 et 4, eh bien, vous avez cette introduction, ou disons, cet envahissement plutôt de l'épiclèse, ce qu'on appelle l'épiclèse. C'est encore un mot barbare. L'épiclèse qui veut dire simplement invocation, est une invocation. Finalement, toute la prière eucharistique, ou presque, n'est guère qu'une longue invocation, qu'une longue épiclèse. Ce qui fait, eh bien, qu'on ne sait pas très bien si il y a et où se situe la forme sacramentelle. C'est une longue invocation. Et si vous prenez d'ailleurs le paragraphe de l'institution générale qui définit l'épiclèse, ça apparaît de façon très très claire. Voici ce que vous dit donc le paragraphe 55 de l'institution générale, l'épiclèse. Par des invocations particulières, l'Église implore la puissance divine pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, et pour que la victime sans tâche qui sera reçue dans la communion profite au salut de ceux qui vont y participer. Vous voyez, donc, l'Église implore la puissance divine pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ. Alors que normalement, eh bien, l'épiclèse prend place après la consécration. Si une fois que la consécration est faite, bon là, il y a invocation au Saint-Esprit. Mais la consécration n'est pas une épiclèse. Elle peut succéder à une épiclèse ou précéder une épiclèse, mais elle n'est pas une épiclèse. Elle n'est pas une invocation au Saint-Esprit. Ouais. Alors, on ne sait pas très bien, avec ces longues épiclèses-là, des canons 2, 3 ou 4, où se situe la forme. En tout cas, elle n'apparaît plus de façon aussi nette, aussi significative. Y a-t-il une forme, ou bien est-ce que c'est toute l'épiclèse qui est consécratoire? Allez vous y retrouver là-dedans. D'autres innovations qui sont protestantes également. Tout ceci est pris des protestants. Hein. Le canon à voix haute, l'épiclèse, c'est protestant. D'autres innovations protestantes, eh bien, c'est cette acclamation après le pater. Car c'est à toi qu'appartiennent le... Bon, voilà, vous en savez plus que moi, c'est pas bien. Cuiatum est regnum et potestas et gloria in secula. Ça, c'est typiquement protestant. Alors, si jamais certains ne me croient pas, ben, j'espère que si, quand même, vous croyez, je n'invente rien. Dans ce petit ouvrage que je vous ai cité, le mouvement liturgique, c'est très intéressant. L'abbé Bonnetaire a ajouté à la fin, en appendice, l'ordo de Thésée. Protestant. Thésée, c'est protestant. Hein. Quoi qu'on puisse vous en laisser croire, Thésée, ce sont des protestants, ce ne sont pas catholiques à Thésée. Hein? Bon. Eh bien, vous avez l'ordo de Thésée. Vous avez l'ordo de Thésée. Là, vous verrez qu'effectivement, eh bien, notre nouvelle messe, mais ça n'est rien d'autre que l'ordo de Thésée, à quelques nuances près. Hein? Quelques nuances près. Hein? Et vous trouvez, effectivement, oui, après le pater, cette invocation. Hein? Je trouve ça. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça n'a jamais figuré dans aucune messe catholique. Jamais. De mémoire d'homme, de mémoire de liturge, jamais on a vu cette invocation, cette acclamation dans la messe catholique. C'est une introduction, une innovation protestante, eh bien, dont a gratifié son ordo Paul VI. Le vernaculaire également est une innovation protestante. Ça a été un des chevaux de bataille de Luther et de ses successeurs, le vernaculaire. Alors que, bon, vous vous rappelez, je pense, ces canons du Concile de Trente, hein, qui disaient qu'on ne devait pas, l'Église n'avait pas jugé expédient que la messe soit célébrée en langue vulgaire, etc. Parce que l'Église a toujours donné priorité justement à la valeur, comment dire, de célébration du mystère. Hein, ce côté célébration du mystère, la priorité, donc, sur le côté enseignement pédagogique. Oui. La messe n'est pas faite pour la messe n'est pas là pour enseigner le peuple. Non, elle est là pour célébrer le mystère, oui, pour offrir le sacrifice. L'enseignement peut se faire avant, après, même pendant. C'est le but de l'homélie. Mais voilà, la messe en elle-même, le rite, la liturgie de la messe n'a pas une fonction d'enseignement. Sinon celle de nous, si on peut dire, de nous éduquer, vous voyez, par la prière, de nous éduquer, de nous enseigner la foi. Mais c'est cette éducation qui se fait, je dirais, par le dedans, vous voyez, par la prière, justement. Le vernaculaire. Et c'est ce petit ajout également, après les formes de, après les paroles de la consécration, quod probobis traditur, accipitet manducate exocomnes, hoc est enim corpus meum, quod probobis traditur, qui est une innovation protestante également, qui n'a jamais, semble-t-il, figuré dans la formule de la consécration catholique. C'est une introduction, une innovation protestante. Avec l'inconvénient, en plus du futur, là nous en avions parlé, l'inconvénient du futur qui renforce encore justement le sens narratif, puisqu'il sera livré. Oui, donc on raconte ce qu'a fait notre Seigneur le jeudi saint, voilà, ceci est le corps qui sera livré pour vous. Mais il n'est pas livré, donc. Ouais. Si vous mettez au futur, c'est qu'il n'est pas livré présentement, actuellement, pour vous. Bon, sans revenir sur cette question du futur dont nous avons parlé, dont l'abbé Bayou pour nous dire beaucoup de choses, beaucoup plus savantes que moi. Et tous ces éléments qui sont donc d'innovation, d'introduction protestante, qui, pris séparément, mais intrinsèquement, sont catholiques. Évidemment, quod probobis traditur, c'est dans la Bible. Vous voyez, tous ces éléments pris séparément, ils sont catholiques. Voyez. Mais seulement leur valeur significative, d'où leur vient-elle? Eh bien, elle vient de leur lieu d'origine. D'où viennent-elles? Qui les a instituées avec la signification qu'elles ont? Voyez. Qui leur a donné cette signification? Eh bien, ce sont les protestants qui la leur ont donnée. Ou bien ce sont les orientaux, si l'on prend, il y a aussi des emprunts aux liturgies orientales. Vous voyez. Leur valeur significative est déterminée, en fait, par le rite qu'il la leur a donné. Donc, introduction, par l'ajout de ces éléments, introduction au sein d'un ensemble qui voulait, j'espère, rester catholique, et bien d'éléments chargés d'une signification étrangère à la foi catholique. Et des éléments, donc, protestants positifs. Ça, c'est issu du protestantisme. Et vous avez des éléments protestants négatifs. Ce sont des suppressions, des choses que l'on a supprimées. Alors, ce ne sont pas des choses qu'on a prises chez les protestants pour les coller dans notre messe, mais c'est des choses que l'on a supprimées de la messe, eh bien, pour effacer son caractère peut-être justement trop sacrificiel, hein, trop catholique, si l'on peut dire. Par exemple, suppression des prières de l'offertoire, qui sont supprimés purement et simplement, nous en reparlerons un peu plus loin, hein, de cette question de l'offertoire. Il n'y a plus d'offertoire à la messe. C'est pas vrai, c'est une blague, ça. Il n'y a plus d'offertoire. Alors que justement, ces prières de l'offertoire, qu'est-ce qu'elles faisaient? Quelle était leur finalité? Quel était leur sens? Eh bien, c'était de déterminer le caractère propitiatoire et réel du sacrifice. C'est là la signification, ouais, les prières de l'offertoire ont pour but de signifier la valeur propitiatoire et réelle du sacrifice. Alors, toutes ces prières ont été supprimées. Donc, vous voyez, une signification qui disparaît. On retire un élément significateur de la réalité et de la propitiation du sacrifice. Si vous prenez le deuxième canon, il n'y a là aucune référence propitiatoire. C'est pour cela que c'est celui qui est célébré, paraît-il, de la façon la plus générale. Hein. Et puis c'est le plus court en plus, donc c'est beaucoup plus pratique. Hein. Dans le canon, vous avez un seul signe de croix. Le prêtre ne fait plus qu'un seul signe de croix sur les oblats, un seul.
Alors que nous en faisons, je ne sais pas combien, je ne vous ai jamais compté, mais enfin, non, on en fait quelques-uns, en tout cas. Il y en a plus d'un, hein. 33, peut-être, oui. Bon. Ah, un signe de croix. Oui, pourquoi tous ces signes de croix? On a l'impression qu'on en rajoute, mais justement, c'est pour signifier, rappeler aux prêtres, rappeler aux fidèles, bon, et nous en avons parlé un peu, justement, cette signification sacrificielle de l'Eucharistie. Et ces signes de croix que l'on répète sans cesse, sur l'Eucharistie. La suppression également de la pierre d'autel. Il n'est plus nécessaire, maintenant, d'avoir une pierre d'autel pour célébrer la messe. La pierre d'autel, c'est la pierre du sacrifice. Alors, on peut prendre n'importe quoi, une table, tout ce que vous voudrez, peu importe. Oui. Bon, ce sont des détails, oui, mais qui tous vont dans le même sens, oui, qui changent en tout cas la signification. Et vous avez ce texte de l'article 259 dans l'Institution Générale. Oui, c'est toujours un peu l'ambiguïté. On dit quelque chose et puis on dit autre chose à côté, oui, alors bon, enfin, c'est bon. L'autel où le sacrifice de la croix est rendu présent. Ah, ben voyez quand même, le sacrifice. On vous en parle du sacrifice. Oui, voilà, il y a le mot. L'autel où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes sacramentels est aussi, ah oui, vous avez deux lignes, une ligne et demie sur la question du sacrifice, et alors après vous avez une, deux, trois, quatre, cinq lignes pour le reste. Est aussi, alors là en détail, la table du Seigneur, à laquelle, dans la messe, le peuple de Dieu est invité à participer. Il est aussi le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Alors, bien sûr, oui, alors on met le mot sacrifice parce que quand même, voilà, il faut en parler un peu de temps en temps, mais l'essentiel de cette définition, eh bien, c'est la table du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'autel? C'est la table du Seigneur, oui. Si vous prenez le texte, l'autel où le sacrifice de la croix est rendu présent. Donc, on vous dit que sur l'autel, il va y avoir rendu présent le sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la table du Seigneur. Alors bon, accidentellement, en passant, il y aura quand même le sacrifice du Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? C'est la table du Seigneur. Oui. Autre suppression, négation, qui concourt à limiter, du moins, en tout cas, à ne pas signifier, c'est toujours autour de cela hein, que nous tournons, qui concourt à ne pas signifier la présence réelle de notre Seigneur, eh bien, vous avez toutes les génuflexions, pratiquement, qui sont supprimées. Et notamment les génuflexions avant l'élévation. Lorsque le prêtre a consacré l'hostie et le calice, le prêtre aussitôt élève l'hostie et le calice. Enfin, élève l'hostie, la montre aux fidèles, repose l'hostie et génuflecte après. Vous voyez, c'est-à-dire que la génuflexion, le prêtre adore l'hostie après qu'il l'ait présentée aux fidèles. Bon, qu'est-ce que cela a tendance à insinuer? Eh bien, que la présence n'est réelle qu'après l'adoration des fidèles. Puisque le prêtre n'adore pas avant de leur avoir présenté. Tant qu'il ne leur a pas montré l'hostie, il ne génuflecte pas. Il ne génuflecte qu'après que les fidèles l'aient adoré. Ah, si ce n'est pas protestant, je ne sais pas ce que c'est, ça. Et c'est la foi des fidèles, c'est l'adoration des fidèles. Les fidèles qui disent, ben oui, je crois que vous êtes là, alors maintenant on peut adorer. Et la diminution, la quasi-suppression, dans les faits, mais enfin ça, nous ne parlerons pas des abus, parce que ça, nous n'en finirons plus. La quasi-suppression, donc, des génuflexions. On pourrait parler également du rite de la communion, qui implicitement, nie la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, par le rite qui est imposé, par le nouveau rite. Hein, ça, c'est pas des questions d'abus, etc. Voyez. Le rite de la communion, où toute forme de respect, pratiquement, et n'est plus nécessaire, n'est plus sollicité, n'est plus exigé. Oui. Tout un ensemble de suppressions, de gestes ou de purifications que faisait le prêtre également, notamment cette habitude que nous avons, nous, de garder les doigts joints après la consécration. Maintenant, ça n'est plus nécessaire.
Pourquoi est-ce que nous gardons les doigts joints? Parce qu'ils ont touché l'Eucharistie. Ils ont touché l'hostie. Donc, s'il y a des parcelles d'hostie sur le bout des doigts, eh bien, nous n'écartons pas les doigts, voyez, de manière à ce qu'elles ne partent pas n'importe où. Voyez, on les garde ici. Et ensuite, et à la fin de la messe, eh bien, nous nous purifions les doigts. Eh bien, ceci n'est plus nécessaire. Hein, le prêtre a consacré, puis après, bon, non, il peut faire ce qu'il veut. Bon. Le prêtre même ne se purifie plus les doigts après, à la fin de la messe. Il ne se purifie pas les doigts. Nous nous purifions, nous, les doigts, si vous avez remarqué, dans le calice. Parce que c'est dans le calice qu'a été contenu le précieux sang, et s'il reste des parcelles d'hostie sur les doigts, eh bien, nous les faisons tomber, si vous voulez, dans le calice. Voyez. Le calice également doit être recouvert à l'intérieur, la coupe intérieure doit être recouverte, normalement, d'une pellicule d'or. Parce qu'il contient le précieux sang. Eh bien, tout cela est supprimé. Il n'est plus nécessaire que l'intérieur du calice soit recouvert d'un métal précieux. Le prêtre ne se purifie plus les doigts, etc. Les plateaux pour la communion, ça n'est plus nécessaire, etc. Enfin, vous connaissez tout cela, malheureusement. Donc, tout ceci, toujours pareil, voyez, bon, je ne dis pas que ceci nie la présence réelle, mais tout ceci ne signifie pas, en tout cas, la réalité de la présence de notre Seigneur. Du côté du prêtre également, des suppressions. Vous voyez, pour marquer la différence, le rôle primordial du prêtre. Mais des suppressions, notamment, eh bien, de son confiteor spécial au début de la messe. Le prêtre d'abord se purifie, demande pardon pour ses péchés. Voyez, parce que d'abord, lui, eh bien, il a besoin d'une pureté spéciale. Parce que c'est lui qui va servir de médiateur entre les fidèles et Dieu. Donc d'abord, il demande pardon pour ses péchés. Il demande aux fidèles de prier pour lui, pour qu'il soit un bon médiateur. Ouais. Et puis ensuite, les fidèles prient, bon, demandent pardon pour leurs péchés. La communion également. Il n'y a plus de distinction dans la communion entre la communion du prêtre et la communion des fidèles. Le rite de communion confond les deux. Vous voyez, là où il y a le pater, ensuite il y a une prière, dite à voix haute, toujours. Ensuite on se fait la bise. Et ensuite, bon, l'Agnus Dei, et puis ensuite une prière avant la communion, le prêtre prend l'hostie, la montre au peuple, se communie et communie les fidèles. Vous voyez, voilà, la communion est unique, un seul rite de communion pour le prêtre et pour les fidèles. Cette question de la paix, mais bien sûr, ça paraît un détail, mais c'est... Ce sont des détails qui ne sont pas des détails. Quand je vous dis qu'il se donne la bise, c'est parce que c'est tout ce que c'est. Ça n'est rien d'autre que ça. Si vous regardez, si vous suivez la messe avec attention, comme vous le faites, bien sûr, vous remarquez que chaque fois que le prêtre se tourne vers vous pour vous dire « Dominus obiscum », pour vous souhaiter que Dieu soit avec vous, que le Seigneur soit avec vous, d'abord, il baise l'autel. Il baise l'autel parce que l'autel, c'est le Christ. Et qu'est-ce qu'il vous donne? Eh bien, il vous donne le Christ. Voilà la paix qu'il vous souhaite. Voilà le bonheur, voilà le bien qu'il vous souhaite. C'est ça qu'il vous souhaite. Il baise l'autel, et ensuite, ses lèvres qui viennent de baiser l'autel vous disent que le Seigneur soit avec vous. Voilà, ce Seigneur que je viens d'embrasser, eh bien, qu'il soit avec vous. C'est très beau, ça. Et le baiser de paix, c'est la même chose. Si vous regardez le baiser de paix, cela ne se fait que dans les messes solennelles, ça, c'est pas dans toutes les messes, d'abord. Chez nous, du moins, je m'entends, bien sûr, ça ne se fait qu'au messe solennel. Que se passe-t-il? Le prêtre baise l'autel, donne le baiser de paix au diacre, qui le donne au sous-diacre, qui va le donner au prêtre, qui le donne au clerc, et ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est la paix du Christ. C'est la paix de la croix. C'est la paix du sang de notre Seigneur qui découle, bon, du prêtre par ses ministres et vers le peuple de Dieu. Bon, c'est très bien, voilà. Voilà, la véritable paix, celle dont la terre a besoin. Alors que là, dans ce nouveau rite, qu'est-ce que c'est? Tout le monde s'échange comme ça, on se dit bonjour, ça va bien, on se fait la vie, je ne sais pas quand. Non. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une paix qui reste au niveau du monde, c'est la paix du monde. Et ça n'est pas la paix que notre Seigneur a voulu nous laisser. Voyez. Détail. Eh oui, ça fait beaucoup de détails. Hein. Vous voyez, cette paix, donc, égalitaire, si on peut dire, et qui ne découle pas de l'autel. La prière universelle également. Cette prière universelle que nous dit l'institution générale dans son paragraphe 45, dans la prière universelle ou prière des fidèles, le peuple, exerçant son office sacerdotal, prie pour tous les hommes.
Que fait le prêtre là-dedans? Pas besoin de lui, après tout, il anime, quoi. Je sais même pas s'il va au micro, mais enfin, je crois que c'est les laïcs, plus ou moins, qui vont au micro. Et la prière universelle, eh bien, le prêtre, je sais pas ce qu'il fait, mais il est peut-être assis à son fauteuil, ou je sais pas. Voilà. Vous voyez, c'est le peuple, c'est le peuple sacerdotal. Donc le prêtre, ben lui, pousse-toi. Maintenant, c'est nous, père. Là, bon, je dirais que c'est la porte ouverte à toutes les invocations possibles et imaginables, hein, toutes les sollicitations, toutes les contestations, enfin tout ce que vous voudrez. Et l'intervention des laïcs même au cœur du canon. Ça, c'est inouï, ça. Hein. C'est unique, ça aussi. L'intervention des laïcs au cœur du canon. Le prêtre, après la consécration, « Mysterium Fidei », et puis l'acclamation qui suit, bon, enfin, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, « Mortem tuam », nous annonçons ta mort et ta résurrection jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Et en plein cœur du canon, voilà, les laïcs qui rentrent en piste, là, et qui ajoutent leurs mots, comme s'il y avait besoin, si vous voulez, de cet ajout des fidèles, pour que la consécration soit complète, achevée, totale. Oui. Toujours l'institution générale, paragraphe 55, que dit-elle? La prière eucharistique exige. C'est-à-dire donc pour que la prière eucharistique soit complète, efficace, oui. La prière eucharistique exige que tous l'écoutent avec respect et en silence. Bon, bien ça. Mais aussi qu'ils y participent par les acclamations prévues dans le rite lui-même. Cela veut dire que si les fidèles donc ne font pas cette acclamation prévue par le rite, la prière eucharistique n'est pas complète. Dans la forme de la consécration du sang. Oui, c'est cette adoration, si vous voulez, du mystère de la foi, du sacrifice de la croix. Alors que maintenant, il est rejeté, donc après la consécration, et avec cette réponse, cette acclamation des fidèles, hein, qui est donc nécessaire à la prière eucharistique. Et puis enfin, un autre élément, vous voyez, ce serait le but, la finalité de la messe, oui, la gloire de Dieu, le salut des âmes, et bien ceci est, non pas, attention, ce n'est pas disparu, ce n'est pas complètement effacé, mais c'est amoindri, oui. Notamment par cette disparition des prières de l'offertoire, justement. Cette si belle prière de l'offertoire qui disent, justement, « C'est d'être pro omnibus, fidelibus christianis, vivis et quae functis ». Voilà pourquoi la messe, ouais, pour les vivants et pour les défunts. Ouais, toutes ces prières de l'offertoire fixent l'intention, la finalité de la messe. Ouais. Eh bien, supprimer pourquoi la messe, à qui la messe, le fait d'être face au peuple aussi. Le prêtre, oui, disparition ou non-signification de son rôle de médiateur, le prêtre face au peuple, donc il anime l'assemblée, il anime la prière, avec tous les inconvénients que cela peut avoir. Oui, toutes ces suppressions, nous pourrions en rajouter encore, mais enfin, il ne faut pas trop allonger. Oui, toutes ces suppressions revêtent en fait une signification objective. On peut nous dire, mais tout ça sont des suppressions. Bon, ben voilà, bon, on retire. Oui, mais pourquoi ces suppressions? La suppression en elle-même a une signification. Et l'ajout d'un élément chargé d'une autre signification par le rite auquel il est emprunté, ou le retrait de ces éléments qui étaient chargés d'une signification catholique, eh bien, de façon plus ou moins perceptible, va modifier la signification de l'ensemble du rite. Et qu'est-ce que vous pouvez faire tous? Des suppressions opérées dans un rite, après des siècles, pour ne pas dire des millénaires quand même, de tradition ou de continuité, supprimer quelque chose dans un rite où cela figure depuis 800 ans, 1000 ans, 1200 ans, je ne sais combien, ça a une signification. Ça n'est pas gratuit, c'est un détail peut-être. Et pourquoi avoir supprimé ce détail alors? Pourquoi? Ça a certainement un sens, ça a une raison d'être, ça a une signification. Et ces suppressions ne sont pas inoffensives. Même si les éléments que l'on supprime ont été introduits de façon plus tardive, bien leur suppression a une certaine signification. Vous voyez, bon, ceci sont des éléments que l'on peut qualifier donc de protestants
Et puis, il y a d'autres éléments, alors qu'eux sont plus diffus et moins discernables, et que l'on peut qualifier de modernistes. Alors ça, c'est la chose la plus difficile à saisir, bien sûr, parce que l'esprit moderniste ne se définit pas. Ne se définit pas. L'esprit moderniste, c'est toute une réinterprétation du dogme chrétien, qui ne le nie pas, oh là non, forcément, ils ne sont pas si bêtes que ça, hein, qui ne le nie pas, mais qui le transforme, qui le réinterprète pour une humanisation de la foi, et pour rendre la foi plus humaine, plus vivante, vous voyez, faire de la foi une sorte d'immanence, vous voyez, alors que la foi est la réponse à la transcendance de Dieu. C'est pratiquement la suppression de la transcendance de l'Église, de la transcendance de Dieu, au profit de l'immanence de l'homme. C'est l'homme, le primat de l'homme, tout sort de l'homme, toute une émanation du sentiment de l'homme. La foi est un sentiment religieux. Alors, on ne nie pas le dogme, mais on lui donne une nouvelle interprétation plus intelligente, quand même. Ça, c'était bon pour saint Thomas d'Aquin. Nos confrères du Moyen-Âge, mais nous, maintenant, quand même. Alors, c'est toute une série de suppressions qui ne sont pas complètes. Bien sûr, tout n'est pas supprimé, tout n'est pas nié, mais on supprime des petites choses par-ci, par-là. Il y a des choses, justement, qui affirmaient le dogme, qui donnaient au dogme une formule claire, vous voyez. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Prenez la messe de Saint-Pie-V, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Bon, on comprend, hein, ça. Et on comprend tellement bien que les protestants n'en veulent pas. Pas question. Voilà, ils ont la haine de la messe tridentine. Hein. Alors on supprime des petites choses justement, qui affirmaient de façon un peu trop forte le caractère propitiatoire de la messe. Vous voyez, la présence, la réalité de la présence de notre Seigneur, la réalité de la présence du sacrifice, ou bien le rôle primordial du prêtre, le rôle nécessaire du prêtre. Vous voyez. Alors c'est toute une série de suppressions, de prières qui faisaient appel à la miséricorde du bon Dieu. Par exemple, la deuxième prière après le Confiteor, celle que l'Indulgentiam, elle a disparu. Bon, c'est un détail, oui, c'est un détail. Oui. Il n'y a plus que le Miseriatur Nostri. Indulgentiam, hop, voilà, on gagne du temps comme ça. Ou les prières que disait le prêtre en montant à l'autel, a offert à Nobis. Et puis il y en a une autre. Bon, je ne sais jamais. Bon, ben voilà. Les deux prières que disait le prêtre en montant à l'autel pour demander à Dieu de le purifier de son péché, pour qu'il soit digne d'entrer dans le Saint des Saints avec un cœur pur, ouais, supprimé. Cette si belle prière de l'offertoire, la prière Deus qui humane substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilus reformasti. Des fois ça revient quand même. Ouais. Cette si belle prière, justement, qui explique bien la misère de l'homme, l'état de misère où il est, et cette bonté, cette grâce inouïe que le bon Dieu lui a faite en venant prendre la condition d'esclave, oui, pour le sortir de cette condition supprimée. Oui. Tout ce qui exprime de façon trop claire cette nécessité de la rédemption, oui, la damnation, alors là on n'en parle plus, ça. Bon, c'est donc l'obligation de parler, de nous arracher à l'éternelle damnation, oui. Cette mention de la mention propitiate. Voilà. Bon, mais compris, tout ça, c'est supprimé. Donc, une certaine tendance, si vous voulez, à donner à la messe un caractère plus profane, plus humain, et donc plus profane. Cet autre péché aussi, qui est le mépris du sens, ou disons l'atteinte portée au sens de la tradition et la dignité liturgique, le respect dû à la liturgie. Et la liturgie, c'est quelque chose d'immense, c'est la prière de l'Église. Oui. C'est la prière de l'Église, c'est la prière de notre mère, oui, d'une chose dont nous avons hérité. Et tout baptisé, tout catholique devra un grand respect, oui, avoir le sentiment de la grandeur, de la majesté, de la dignité de la liturgie. Alors, ben, tout ça, on l'a remplacé par quoi? Par la mutabilité, la créativité, faites ce que vous voulez. Comment voulez-vous, après, que les fidèles aient le sens, justement, de la grandeur de la liturgie?
faites ce que vous voulez. Et puis tous les dimanches, eh bien, la messe, ça change. Un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça. Un jour c'est les enfants, alors on fait ceci. Un jour c'est les grands-mères, on fait autre chose. Comment voulez-vous garder le sens, du moins, le respect de la liturgie? Ce ne sont pas des abus, ceci, c'est déjà dans le rite initial. Alors que, bon, que ça ait donné lieu à des abus, ça, entièrement d'accord, mais disons, la racine des abus est dans le rite initial. Ne serait-ce que par la multiplication des canons. 4 canons, c'est déjà ouvrir la porte à la fantaisie, on peut choisir. Bon, ça y est, alors bon, alors quel messe il dit aujourd'hui? Et puis surtout, alors, le gros problème, ça, c'est le gros problème, c'est la question de l'offertoire, hein, alors qu'il, lui, est typiquement, il n'est ni catholique, ni protestant. Et cette innovation, cette introduction d'un offertoire, qui n'est même pas un offertoire, ça, c'est typiquement moderniste. Hein, typiquement moderniste. Alors là, si c'est pas ça le modernisme, moi, je n'y comprends plus rien. Hein, cet offertoire, bon, qui utilise des prières juives, et oui, qui sont des bénédictions de la table, de la Kabbale. Voilà. Tout simplement, vous savez, c'est pas une découverte personnelle, c'est sûr, ça, hein, c'est connu, c'est établi, c'est historique. Hein. Alors, indépendamment de cela, si vous voulez, il y a la question quand même, je dirais même si ces prières étaient bien, sous les, même si leur origine était bonne. Voyez, ne serait-ce que la structure de l'offertoire, en lui-même, est moderniste. Qu'est-ce que c'est que l'offertoire catholique? Nous l'avions dit la dernière fois, c'est cette oblation, c'est l'oblation extrinsèque. Mais l'oblation extérieure, qui est la présentation de la victime au prêtre et sa préparation. Et c'est l'oblation extrinsèque. Donc, ce n'est pas encore l'immolation, ce n'est pas encore l'oblation de la victime immolée. C'est pas ça l'offertoire encore. Non, c'est la préparation de la victime. C'est ce qu'on appelle donc une oblation extrinsèque. Et le sacrifice comporte les deux. Oblation extrinsèque et puis l'oblation intrinsèque de la victime, donc immolée. Là, c'est le prêtre qui offre l'immolation de la victime. Ça, c'est la deuxième étape. L'offertoire étant la première étape. Alors, à la croix, bien sûr, ces deux oblations ont été confondues, c'est sûr, hein, puisque le prêtre et la victime étaient la même et unique personne. À la messe, c'est un peu plus délicat à discerner, mais disons qu'à la messe, la transsubstantiation réalise l'oblation extrinsèque, c'est-à-dire la présence et la préparation de la victime. Ouais. Et la double consécration, c'est-à-dire la présence séparée du corps et du sang, réalise l'immolation et l'offrande, donc, de la victime immolée. Ouais. À la messe, d'abord, vous avez la transsubstantiation, donc c'est la présence de notre Seigneur qui est réalisée, la présence de la victime que l'on prépare. Bon, et il est certain que c'est simultané, attention, hein, mais on distingue les deux choses, vous voyez, qui se réalisent simultanément. Il y a la présence de la victime, sa préparation, son immolation, qui est signifiée. Par quoi est signifiée l'immolation? Par les deux espèces séparées, le pain et le vin. Voyez, la double consécration a pour finalité de signifier la séparation du corps et du sang. Et donc, puisqu'elle la signifie, nous sommes dans l'ordre sacramentel de la réaliser. Ça, le rôle du sacrement, hein, c'est de signifier ce qu'elle réalise. Donc, signe sacramentel, consécration séparée du pain et du vin, réalisation effective de l'immolation. Mais la transsubstantiation en elle-même, par elle seule, si l'on peut dire, ne réalise que la présence et la préparation de la victime. Alors, il est certain que ceci se réalise simultanément. Et c'est là toute la difficulté. Comment signifier aux fidèles qui sont là l'oblation extrinsèque? Eh bien, il faut le faire avant. Il n'y a rien à faire. Oui.
Au moment de la consécration, qu'est-ce que l'on signifie et qu'est-ce que l'on réalise? C'est l'immolation. Il faut donc que la signification de l'oblation extrinsèque, de la préparation de la victime, soit faite avant. Et c'est cela le rôle de l'offertoire. L'offertoire est là pour signifier, sans la réaliser encore, cette oblation extrinsèque. Le pain et le vin qui sont offerts signifient, le pain et le vin que nous offrons à l'offertoire signifient la constitution de la victime, la présentation, la préparation de la victime. Et il est certain que la victime, ce n'est pas le pain et le vin. Enfin, quand même, quoi. Ce n'est pas le pain et le vin, la victime du sacrifice. On ne prépare pas le pain et le vin. Qu'est-ce que l'on prépare, en fait? Qu'est-ce que l'on signifie? C'est la signification, on signifie la préparation de la victime, la véritable victime, qui sera notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela qu'indiquent les prières de l'offertoire. C'est cela qu'elles veulent signifier. Ouais. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, la véritable victime, mais en tant qu'unie à son corps mystique. C'est Jésus-Christ rassemblant son corps mystique pour l'offrir à son Père. Et voilà ce que signifie l'offertoire. Notre offertoire. Il signifie l'union de l'Église à notre Seigneur pour constituer avec lui une seule victime. Une seule victime du sacrifice qui va s'accomplir au moment de la double consécration. Mais cela, il faut le signifier auparavant. Et il faut que l'Église, vous voyez, rejoigne le sacrifice de notre Seigneur, que l'Église, si vous voulez, se constitue victime avec notre Seigneur. Et voilà le rôle de l'offertoire. C'est préparer la victime, notre Seigneur, mais son corps mystique. C'est ça le but de la messe. Attention, La messe, c'est la répétition. Bon, rappelez-vous un peu ce que nous avons dit. C'est la réactualisation du sacrifice de la croix pour aspirer, si on peut dire, pour englober toute l'Église, successivement dans le temps. Et l'offertoire a pour finalité, justement, de faire rentrer dans le sacrifice, la part des fidèles qui sont présents là. Et voilà le rôle de l'offertoire. Et une messe sans offertoire, c'est une absurdité. Une messe sans offertoire, vous aurez le sacrifice de notre Seigneur, mais vous n'aurez pas le sacrifice de l'Église. Parce que l'Église ne s'est pas intégrée au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur souffrira, sans doute. Il aura le sacrifice de Jésus-Christ. Si la messe est valide, très bien, mais de lui seul. Il n'y aura pas le sacrifice de l'Église conjointement avec lui. C'est pour ça que c'est grave la question de l'offertoire. C'est peut-être la question la plus grave de ce nouveau rite. Parce que la forme essentielle est conservée, les paroles de la consécration sont conservées, la messe sera peut-être valide, et j'espère quand même que dans pas mal de cas, elle est valide, mais ce qui manque, c'est ça. Alors vous avez d'un côté notre Seigneur qui s'offre, d'un autre côté l'Église, mais il n'y a pas le moyen d'établir le lien entre les deux. Parce que fait le nouvel offertoire? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes... etc. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce n'est pas une offrande, ça. C'est une bénédiction. Et qu'est-ce qu'on bénit? C'est même pas Dieu qui bénit le pain, c'est nous qui bénissons Dieu. C'est quand même... Mais, écoutez, c'est pas moi, Moi, j'invente pas, si vous voulez. Je suis pas assez intelligent pour inventer des choses pareilles, moi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain... Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Qu'est-ce qu'on offre là? Qu'est-ce que vous avez offert avec ça? Rien du tout. Vous n'avez rien offert, c'est pas un offertoire, ça. D'ailleurs, ils ne parlent pas d'offertoire. Si, quand même, s'ils en parlent. Pardon. Il est bon que les fidèles expriment, manifestent leur participation par une oblation. En apportant, donc il parle quand même. Mais en fait, prenez les prières, ce ne sont pas des prières de France. Tu es béni, Dieu de l'univers. S'il n'y a aucune relation dans cette prière au sacrifice, le pain de la vie, c'est bien. Le vin du royaume éternel, et encore, attention, ça ce sont les traductions. Prenez le texte latin, panis vitae. Ça va encore, le pain de la vie. Et pour le vin, c'est potus spiritualis. Breuvage spirituel. Allez retrouver le sang de notre Seigneur là-dedans. Potus spiritualis, breuvage spirituel. Donc, avec cette mention du travail des hommes, eh bien, qu'est-ce que c'est? Simplement, nous bénissons Dieu pour sa création, et c'est une sorte de spiritualisation du travail des hommes. Travail des hommes, c'est beau ça. On magnifie le travail des hommes, on remercie Dieu, on loue Dieu pour sa création, parce qu'il nous a donné du pain et du vin, et puis voilà. Et où qu'est-ce qu'on offre? On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Moi, je ne vois pas ce qui, là-dedans, peut exprimer une offrande. Nous te le présentons. Mais présenter, ce n'est pas offrir, hein, attention. Nous te le présentons. Bon, voilà. Ce n'est pas une offrande. Et d'ailleurs, vous avez un texte qui est intéressant. Vous avez ça dans le livre de Da Silveira. C'est un commentaire d'éditeurs d'ouvrages liturgiques qui expliquent de cette façon le changement de l'offertoire. Et c'est intéressant parce que ce sont donc des gens qui sont tout à fait d'accord et qui trouvent ça très bien. C'est eux qui le disent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas seulement le texte qui est nouveau, mais aussi son sens. C'est intéressant. Bon, aussi le sens. Il s'agit d'une prière de bénédiction, dans une exclamation de joie en présence du symbole. C'est ici une bénédiction ascendante qui est adressée à Dieu pour le louer. Pourquoi louons-nous Dieu à ce moment? Pour la création du pain. Nous ne demandons pas à Dieu de bénir le pain. Non, le pain que nous recevons de la générosité de Dieu est la véritable bénédiction descendante parce qu'il nous communique force, vie et énergie. La bénédiction qui vient de Dieu, nous lui rendons, nous lui retournons dans le sens et dans la mesure par lesquelles, en louant, nous reconnaissons qu'elle provient de Dieu. Ils le disent, oui, c'est pas moi. Hein. Aidés par les innombrables textes bibliques qui nomment Dieu béni pour les merveilles qu'il fait, et unis à ces textes, nous le louons au moment de la présentation du pain qui sera, par la prière consécratoire, pain de vie. Nous n'offrons pas le pain à Dieu. Nous n'offrons pas le pain à Dieu, mais nous le bénissons par le pain. Alors, quand on ajoute en plus non, que ces prières sont héritées de la Kabbale, il y a vraiment un gros, gros, gros problème avec cet offertoire. Hein. Cette messe sans offertoire, c'est une absurdité, c'est une monstruosité. Une monstruosité. On ne voit vraiment pas. L'Église est absente. On condamne avec des prières comme ça l'Église à être absente du sacrifice de la croix. Elle ne peut pas. Comment voulez-vous qu'elle rejoigne notre Seigneur? Alors que précisément, l'offertoire, c'est l'offrande de l'Église avec notre Seigneur. Oui. L'offrande des sacrifices de ses membres, l'offrande, bien sûr, de la matière du sacrifice, de la matière du pain et du vin, mais en tant qu'ils sont référés, qu'ils vont être la matière du sacrement. Oui. C'est uniquement pour cela. Si on offre le pain et le vin, ce n'est pas en tant que pain et vin, c'est en tant qu'ils vont être la matière du sacrifice, ce dont va se servir notre Seigneur, eh bien, pour se rendre présent, c'est tout, pour réaliser son sacrifice. Oui. C'est cela qu'exprimaient ces prières sacrificielles, car elles sont sacrificielles, les prières de l'offertoire. Oui. Cette hostie immaculée, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'hostie qui est dans la patène, non. L'hostie immaculée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la victime, la véritable victime. Le calice salutaire, calicem salutaris que nous offrons, qu'est-ce que c'est, calice salutaire? Comment ce calice que j'offre là avec du vin dedans peut-il être salutaire? Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le calice que je suis en train d'offrir, que je présente là. Non, c'est le calice en tant qu'il contiendra, bien dans quelques instants, le sang et la vertu salutaire du sacrifice de notre Seigneur. Alors ceci est signifié, voilà, la valeur de l'offertoire, donc c'est ça, c'est sa valeur significative, voyez, pour manifester aux yeux de l'Église, pour aider l'Église justement à rentrer au sein du sacrifice de notre Seigneur. Oh, nous pourrions dire encore beaucoup de choses hein, sur ce Novus Ordo. Il est certain que, disons, ce qui relève de l'institution divine est à peu près préservé quand même. La matière, par exemple, le pain et le vin,
Bon, de toute façon, je parle de ce qui est prévu. Hein. Je ne parle pas de ce que font concrètement les prêtres dans les églises. Hein. La matière est préservée. La consécration, la forme de la consécration du pain est préservée. La forme de la consécration du vin, nous en avons parlé, est touchée quand même. Touchée. Et ça, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église que nous avons assisté à une chose pareille, par la suppression du Mysterium Fidei. Bon, c'est une chose grave, quand même, qui est inouïe dans l'Église, cela. Mais, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Le Mysterium Fidei n'est pas d'institution divine. Notre Seigneur, lorsqu'il a consacré le pain et le vin, n'a pas dit Mysterium Fidei. Il ne l'a pas dit. Donc, il n'est pas d'institution divine. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Hein. L'institution ecclésiastique, hein, ça a toute sa valeur, et la tradition a toute sa valeur. Mais enfin, la nouvelle forme, quand même, préserve l'institution divine. Et ceci, quand même, je crois, suffit à préserver la validité de la messe. Bon. Il y a, oui, de toute façon, je parle du rite en lui-même, hein, parce qu'il y a la forme essentielle. Et vous avez un passage de saint Thomas d'Aquin qui est intéressant, qui est surprenant, oui. Parce que, bien sûr, l'offertoire est une chose abominable, c'est sûr, ça, alors là, je vous l'accorde à 300%. Mais vous avez les formes essentielles, vous avez la forme essentielle de la consécration du pain, la forme essentielle de la consécration du vin. Si vous avez la matière apte, si le prêtre est prêtre, s'il a l'intention de faire ce que veut faire l'Église, eh bien les paroles de la consécration vont agir malgré lui. Elles vont agir malgré lui. Enfin, malgré lui, non, enfin, pas malgré lui, mais enfin. Même s'il est dit sur un ton récitatif, vous voyez ce que dit saint Thomas d'Aquin, il prend un exemple. Il fait une comparaison avec le baptême de notre Seigneur. Alors, on va essayer de... Hein. En raison de la puissance infinie du Christ, de même que par le contact de sa chair, voilà, le contact de son corps, une force régénérative a atteint non seulement les eaux du Jourdain que le Christ a touchées, mais en plus ont atteint toutes les eaux sur toute la terre, pour tous les siècles, et en raison de la puissance régénérative, qui est la puissance divine, tout simplement, de notre Seigneur, vous voyez, qui a atteint donc toutes les eaux de toute la terre, pour tous les siècles, afin de leur communiquer le pouvoir de sanctifier, de justifier, voyez, de donner la vie, et bien de même, nous dit saint Thomas, par la prolation, comment dire ça en français, par l'émission, si vous voulez, le fait que notre Seigneur ait dit lui-même ces paroles, elles ont acquis une vertu consécrative. Oui. Donc elles possèdent la vertu consécrative, quel que soit le prêtre qui les dise. Comme si le Christ réellement, si vous voulez, présentement, les proférer lui-même. Les paroles elles-mêmes ont puissance consécratoire. Même si le prêtre les dit sur le ton récitatif, même si le prêtre les dit en français, en chinois, en arabe, en tout ce que vous voudrez, vous voyez, c'est le sens des paroles qui compte. Ce n'est pas, la matière extérieure, si vous voulez, ce n'est pas la forme extérieure des paroles qui compte, mais c'est le sens véritable des paroles qui compte. Et à ce moment-là, eh bien, il semble quand même que l'on puisse avoir, enfin, il me paraît quant à moi difficile de dire que le rite de Paul VI est systématiquement, intrinsèquement invalide. Bon, pour l'instant, j'en suis là. Hein, attention, on va continuer, peut-être qu'on ira plus loin, mais pour l'instant, parce qu'il y a quand même, vous voyez, la signification essentielle n'est pas rompue. Vous voyez, bon, elle est diminuée, elle est amoindrie, c'est sûr, elle est et ça, on tombe un petit peu dans le flou. Le problème devant lequel nous nous trouvons, eh bien, c'est que
la signification générale de la messe, eh bien, nous est donnée quand même avec une, comment dire, avec un sens moderniste. Vous voyez, nous avons vu qu'il y avait des éléments catholiques, des éléments protestants, et puis des éléments modernistes. Les éléments catholiques et les éléments protestants sont incompatibles, enfin, sont contradictoires. Vous voyez, le catholique ne peut pas assumer le protestant, ni le protestant ne peut assumer le catholique. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme solution? Eh bien, c'est le moderniste, qui, lui, peut très bien assumer les deux à la fois. Ça ne le dérange pas du tout. Et c'est cela, en fait, ce qui apparaît dans la messe, la signification n'est ni totalement protestante, ni totalement catholique, elle est une espèce de conglomérat des deux, qui est tout simplement le modernisme. Oui. C'est une signification moderniste, qui ne nie pas, bien sûr. Vous voyez, qui ne signifie pas l'absence de notre Seigneur, qui ne signifie pas l'absence du sacrifice de la croix, mais qui ne signifie pas non plus de façon claire, de façon nette, la présence de notre Seigneur et la présence du sacrifice de la croix. Et si nous voulons aller plus loin, voyez, si nous voulons voir un peu quel est l'élément qui va déterminer, si nous revenons à notre analyse des sacrements, du signe, des symboles, voyez, quel est l'élément déterminant, avons-nous dit? Eh bien, c'est l'institution de l'autorité. C'est l'intention de l'autorité. Oui, nous avons un fondement moderniste, donc, disons, un sens, une signification moderniste, mais quelle est la signification véritable? Eh bien, alors là, il faut le demander à l'autorité. Et c'est là le but de cette institution générale. Dieu merci, nous avons l'institution générale qui nous déclare l'intention de l'autorité. Ils nous le disent, là. Alors là, si nous regardons l'institution générale, eh bien, nous découvrons encore tout un tas de choses qui sont pas mal, quand même. Sont pas mal. Nous voyons, par exemple, que la messe, jamais, dans l'institution générale, qui est donc le texte de présentation hein, du Novus Ordo, jamais la messe n'est désignée comme un sacrifice immolatoire. Elle est désignée comme « Actio Christi et Populi Dei ». C'est-à-dire, bon, voyons voir un petit peu... Action de Christ et du peuple de Dieu. C'est la scène du Seigneur. C'est le banquet pascal. C'est une participation commune à la table du Seigneur. C'est le mémorial du Seigneur. Le terme de sacrifice, on le trouve quelquefois, mais en passant, comme ça. Vous voyez, sans qu'il soit défini, sans qu'il soit expliqué. Vous voyez. Donc le terme y est, c'est vrai, ça, c'est certain, mais sans qu'il soit précisé la nature, vous voyez, du sacrifice. Et l'on trouve beaucoup plus souvent, justement, ces autres expressions. Oui. Mémorial de sa mort et de sa résurrection, la dernière scène, le banquet pascal, etc. etc. Alors, bien sûr, il y a le fameux article 7, et oui, ça vous connaissez, ça. La scène du Seigneur, autrement dit la messe, est une synaxe sacrée, c'est-à-dire le rassemblement du peuple de Dieu, sous la présidence du prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. Oui, rassemblement du peuple. Voilà ce qu'est devenu la messe. Oui. Alors, ce qui est embêtant là-dedans, c'est que c'est là le modernisme. Hein. C'est que ces expressions ne sont pas fausses. Mais c'est vrai que la messe est le rassemblement du peuple. C'est vrai que la messe est le banquet pascal. Mais c'est vrai tout ça. Mais par quoi pêchent ces expressions? Par insuffisance, vous voyez, par privation, justement, de l'élément qui les rendrait catholiques. Et qui les distinguerait d'une définition protestante. Mais les protestants sont tout à fait d'accord pour dire avec nous que la messe et le banquet, le mémorial et tout ce que... Mais ils sont entièrement d'accord, ça. Il n'y a aucun problème. Ouais. Alors, c'est vrai. Mais alors, on a gommé tout ce qui spécifie la doctrine catholique par rapport au protestantisme et au modernisme. Ouais. Et quelle est la signification de cette suppression? Sinon une signification moderniste, justement, vous voyez, pour assumer deux significations à la fois, signification catholique et signification protestante, signification moderniste, qui fait le lien entre les deux. La prière eucharistique, qui est donc ce que nous appelons la consécration, enfin, ou le canon plutôt, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'article 54 qui vous dit cela. C'est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration, la prière eucharistique, prière d'action de grâce et de consécration. Voilà. Prière d'action de grâce et de consécration. La présence du Christ, vous voyez, par rapport, définie par l'institution générale, eh bien, quelle est-elle, cette présence? Eh bien, toujours notre article 7. Que nous dit-il, notre article 7? C'est pourquoi, mais je trouve que je l'ai perdu, ça dit pas mal. Voilà. Donc, la scène du Seigneur, ou messe, est la synaxe sacrée ou rassemblement du peuple de Dieu réuni sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi, quoare, s'applique éminemment au rassemblement local de la Sainte Église, la promesse du Christ, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, présence spirituelle. Puisque le peuple se rassemble et prie le Seigneur en commun, eh bien, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, présence spirituelle. Ce n'est rien d'autre, oui. À la manière d'une simple réunion de prière. Et ce terme de présence, on le trouve plusieurs fois employé, oui, dans le même sens, à l'article 28. Oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ensuite, le prêtre, c'est incroyable ça, le prêtre, par une salutation, signifie à la communauté rassemblée la présence du Seigneur. Voilà. C'est tout. Voilà ce qu'est devenu la présence du Seigneur. L'article 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Christus presens in verbo suo. Le Christ présent dans sa parole. L'article 33. Le Christ lui-même est là, présent par sa parole au milieu des fidèles. L'article 35, etc., etc. Il professe que le Christ y est présent et leur parle. Attendez voir. Oui, ça c'est la lecture évangélique, vous voyez. Donc les fidèles, par leur acclamation, reconnaissent et professent que le Christ y est présent et leur parle, et ils écoutent sa lecture debout, etc. Bon, vous voyez. Toujours, chaque fois que la présence de notre Seigneur est invoqué, eh bien c'est toujours cette présence spirituelle, ouais, soit par sa parole, soit parce qu'on est rassemblés pour prier, pour le prier ensemble. Voyez. Mais nous ne trouvons jamais, et vous ne trouverez jamais, le terme transsubstantiation, ou bien présence réelle et substantielle, voyez, ne sont employés. Le rôle du prêtre. Bien sûr, hein, rôle réduit à celui d'une présidence, nous l'avons déjà dit. Ce qui est l'essence de la messe, c'est le rassemblement du peuple. Congregatio populi. Et c'est un point qu'on avait déjà noté. Hein. Cette distinction, c'est amusant, je ne sais pas si l'on fait exprès ou quoi, hein, mais le début de la célébration de la messe est marqué dans l'ordre traditionnel par sacerdos paratus. Le prêtre étant prêt, bon, ensuite, on y va. Et là, ça commence par quoi? Par populo congregato. Le peuple étant rassemblé. Piou. Inversion, oui, ça y est, c'est fini. Le premier, c'est pas le prêtre, non, ce qui compte, c'est que le peuple soit rassemblé. Alors, une fois que tout le monde est là, bon, allez, on peut y aller. C'est... Le prêtre passe au deuxième plan. Celui qui arrive au premier plan, eh bien, c'est le peuple. On n'a rien contre le peuple, mais enfin, voilà. Le ministre a un rôle autre. Cette question également, ça c'est à l'article 12, voyez, de l'émission des paroles à voix haute. La nature des parties présidentielles, nous dit l'article 12, exige qu'elles soient proférées à voix haute. Or, la caractéristique de la prière à voix haute, eh bien, c'est la prière commune. Oui. Ce que vous dit saint Thomas d'Aquin, donc prier à voix haute, oui, c'est équiparer le prêtre et les laïcs, c'est les mettre au même plan. Saint Thomas d'Aquin, dans son traité des sacrements, je pense, il parle justement de cette question de la façon de parler. Eh bien, il y a des choses que le prêtre dit de façon publique. Quelles sont les choses qu'il dit de façon publique? Eh bien, ce sont celles qui appartiennent aux prêtres et au peuple.
Oui, celles qui sont communes, donc, aux prêtres et au peuple, comme sont les prières communes. Voilà, alors là, le prêtre parle à voix haute. Lorsqu'il s'agit de prier ensemble, le prêtre parle à voix haute. Mais il y en a d'autres qui n'appartiennent qu'au seul prêtre. Qu'au seul prêtre, comme l'offrande et la consécration. Et alors, eh bien, au sujet de celles-ci, il faut dire qu'elles doivent, être dites par le prêtre de façon secrète, occultée. Parce qu'elles appartiennent au prêtre seul. C'est le prêtre qui agit en tant que prêtre. Ce n'est plus une prière publique, commune, oui, où il faut unir nos voix. Alors, à ce moment, le prêtre, eh bien, les dit à voix basse. Et ce qui est grand, oui, c'est que l'institution générale dit que c'est dans la nature des choses. Hein. C'est dans la nature des choses. Oui. Natura partium presidentialium, la nature des partis présidentiels. Et quels sont ces partis présidentiels? Apparemment, c'est tout. Hein. Puisque le prêtre dit tout à voix haute. Même, et ça, ce n'est pas du tout une... C'est curieux, hein, vraiment. Enfin bon. Le rite, ouais, les rubriques disent elles-mêmes. C'est le numéro 62 des rubriques. Ouais, c'est au cours de la Prex Eucharistica. Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur sont proférées distinctement et ouvertement. Prouiti natura eurundem, comme le requiert la nature des paroles elles-mêmes. Et quelles sont ces paroles elles-mêmes? Eh bien, ce sont les paroles de la consécration. C'est quand même terrible, oui. Donc, la nature même des paroles de la consécration requiert qu'elles soient proférées distinctement et ouvertement, à voix haute. Et donc, c'est mettre les paroles de la consécration, eh bien, au niveau, vous voyez, des prières communes. Et il paraît, d'ailleurs, bon, ça c'est un abus, donc il ne faut pas trop en parler, qu'effectivement, ben, il y a des lieux où les fidèles eux-mêmes disent les paroles de la consécration en même temps que le prêtre. Et bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez ? Une prière faite à voix haute, c'est une prière qui appelle justement la prière commune. C'est tout à fait normal. Et ce qui est grave, donc, c'est que c'est le rite qui le veut. Hein. Ce ne sont pas des abus, hein. C'est le rite qui le veut lui-même. Hein. C'est marqué en rouge. Comme le requiert la nature des paroles elles-mêmes. Il faut qu'elles soient dites distincte et aperte. Les paroles de la consécration. Un autre point également, c'est la distinction entre messe avec peuple et messe sans peuple. Quand même étrange, ça. Ouais. Messe avec peuple, alors bon, vous avez d'abord le rite de la messe, et puis à la fin, vous avez une annexe, appendix. Ordo missae sine populo. Eh bien, il y a un rite différent. Vous voyez, comme quoi la présence des fidèles est quand même une chose essentielle, vous voyez, pour donner à la messe sa signification, sa valeur, puisque quand les gens ne sont pas là, eh bien, il faut dire la messe d'une autre façon. Et ça, c'est prévu. Ce n'est pas du tout une adaptation que font les prêtres quand il n'y a pas de fidèles, c'est prévu. Ordo missae sine populo. L'ordo de la messe sans peuple, quand il n'y a pas de peuple. Vous avez donc deux façons de dire la messe, quand le peuple est là et quand il n'est pas là. Alors, si ça ne signifie pas la nécessité, ou du moins, disons, le rôle essentiel du peuple dans la messe, je ne vois pas très bien ce que cela peut signifier. Oui. Oh, nous pourrions en dire encore beaucoup, mais enfin, il ne faut pas trop allonger. Tout cela sont des choses qui sont plus ou moins connues. Ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer un peu, si vous voulez, l'importance de la signification de tout cela. Oui, c'est, je dirais, chaque chose prise séparément n'est pas grave. Ce qui est grave là-dedans, c'est la signification générale. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie ce rite, ce symbole, hein? Mais il signifie quelque chose qui n'est plus catholique. Qui n'est plus catholique. Il signifie un rite. Il signifie une cérémonie, un symbole où l'assemblée, où les fidèles se rassemblent pour se souvenir, pour célébrer justement l'amour que notre Seigneur a eu pour eux, pour faire mémoire, voyez. Mais la signification sacrificielle a disparu. Même si le sacrifice y est, oui, c'est ça le problème, hein. Même si le sacrifice, disons, peut y être, En tout cas, la signification sacrificielle a disparu. Elle a disparu de par la suppression de l'offertoire, de par toutes ces suppressions dont nous avons parlé, de par ces ajouts dont nous avons parlé. Alors le problème, moi, je vous dis, il est difficile de trancher, hein, c'est la nature du sacrement. Si nous revenons à ce que nous avons dit au début, hein, le sacrement réalise la grâce qu'il signifie, ou signifie la grâce qu'il réalise. Vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas une question de détail, cette question du rite et de la signification du rite. Vous voyez. Quelle est finalement la réalité? Quelle est la réalité? Ben, je ne réponds pas, hein, parce qu'il est difficile de répondre. Hein, mais en tout cas, la signification générale du rite est une évacuation du dogme catholique sur la messe, sur la réalité de la présence de notre Seigneur, sur la réalité de la présence de son sacrifice, sur le rôle primordial, nécessaire, essentiel du prêtre. Tout ceci n'est plus signifié. Et ça, c'est dans le rite lui-même. C'est dans l'institution et c'est dans le rite lui-même. Et c'est donc un rite dont le dogme catholique est absent. Des formules vagues, des formules ambiguës qui le remplacent. Et ceci revient à une négation implicite. Bien sûr, ce n'est pas une négation explicite, mais ceci revient à une négation implicite, ou bien, si vous préférez, à une sorte d'assomption. On assume, si vous voulez, le dogme catholique, mais dans une optique moderniste. Et ça, c'est le titre des modernistes, voyez, de prendre quelque chose de catholique et de lui donner eh bien une autre signification, sans nier la signification catholique, mais par des ajouts, par des retranchements, etc., transformer petit à petit la signification. Et c'est cela qu'a très bien résumé l'article 7 de l'institution générale, tant et si bien, mais qu'il a fallu le modifier. Quand même, il ne faut pas l'oublier. Il a fallu modifier l'article 7 de l'institution générale. Vous voyez, c'était quand même... Parce que c'est proprement une hérésie. Hein. C'est-à-dire que la messe, c'est la scène du Seigneur, la synaxe sacrée, etc. Ouais, c'est proprement hérétique. Ouais, ça. C'est... Alors là, quand même, il y a eu pas mal de remue-ménage. Les gens ont rouspété, et des gens bien. Alors, quand même, ils ont fait une nouvelle édition en 70, un an après, donc, une nouvelle édition de l'institution générale dans laquelle ils ont apporté des petites modifications. Seulement, ces modifications de l'institution générale ne changent rien à l'ordo. Ne changent rien à l'ordo tel qu'il avait été fait et avec la signification que lui avait donnée l'institution générale primitive. Changer l'institution générale, c'était très bien, mais il fallait changer l'ordo avec. Ça va avec les deux. Alors on a laissé l'ordo avec la signification que lui avait donnée l'institution générale de 69, et puis on a modifié quelques petites choses dans l'institution générale en 1970. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. La nature, la malice de l'ordo n'est pas modifiée pour autant. La signification lui a été donnée par l'institution générale qui a présidé, si vous voulez, à sa confection et qui lui a donné cette signification au moment de sa promulgation. C'est fini maintenant. Il faudrait modifier l'ordo. Or, ceci n'a pas été fait. Et qu'est-ce qu'a ajouté l'institution générale? Eh bien, elle a ajouté quand même la mention du prêtre qui gère, si l'on peut dire, la personne du Christ, oui, qui tient lieu donc de notre Seigneur, qui tient la place de notre Seigneur, oui, qui représente la personne du Christ. Bon, c'était ajouté, donc vous voyez, un petit ajout, bon, qui est bien sûr. On a ajouté également le sacrifice eucharistique. Oui, à la messe ou scène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué et réuni sous la présidence du prêtre qui représente la personne du Christ pour célébrer le mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique. On a ajouté donc sacrifice eucharistique. C'est bien. Et puis on a ajouté enfin une troisième chose tout à la fin. En effet, la célébration de la messe
dans laquelle se perpétue le sacrifice de la croix.
Se perpétue. Oui, c'est un peu insuffisant. Parce que, bon, une mémoire perpétue, ce dont on fait mémoire. Ouais, c'est... Voilà.
Bon, enfin. Donc, dans laquelle se perpétue le sacrifice de la croix. Le Christ est réellement présent dans l'assemblée réunie en son nom. Dans la personne du ministre, dans sa parole, et enfin, substantiellement et de manière ininterrompue, sous les espèces eucharistiques. Allez, c'est encore l'ambiguïté moderniste. Il y a une affaire, on n'en sort pas. Moi, je ne veux pas être méchant, mais enfin, réellement présent dans l'assemblée, réunion en son nom, dans la personne du ministre, dans sa parole, le titre de présence réelle, disons l'adjectif réel, avait toujours été réservé pour désigner la présence eucharistique. Et là, on l'applique à la présence dans l'assemblée, le ministre dans la parole. Alors que là, il n'y a de présence que spirituelle, si vous voulez, c'est tout. Il n'y a pas de présence réelle de notre Seigneur. C'est un terme que l'on réservait à la présence eucharistique. Alors ensuite, quand même, on ajoute substantiellement et de manière ininterrompue sous les espèces eucharistiques. Bon, c'est vrai ça, bon, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant, vous voyez, pour changer la signification générale? Bon, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit totalement suffisant. Alors nous pourrions dire beaucoup de choses, il est difficile de trancher de façon définitive, est-ce que la messe, est-ce qu'elle est encore catholique, est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle n'est pas valide, c'est pas mon propos, j'ai pas l'intention de vous donner une réponse définitive là-dessus. Il est difficile de dire qu'elle soit invalide à tous les coups, mais il est difficile de dire qu'elle soit valide à tous les coups aussi, à cause de cette ambiguïté dans sa signification. Elle signifie quelque chose d'ambigu. Elle a une signification, elle n'est pas ambiguë en elle-même, mais elle a une signification qui est ambiguë. Elle peut avoir une signification catholique, elle peut avoir une signification protestante, et elle a, de façon beaucoup plus évidente, une signification moderniste. Alors, bon, attitude pratique, c'est pas mon propos, hein, je ne vous donnerai pas de consignes pratiques, hein, c'était simplement ce que je voulais, c'était vous apporter quelques éléments de réflexion sur cette question, ouais, de la signification du sacrement, parce que la messe est un sacrement. Et c'est vrai, moi j'avoue qu'il y a des jours où ça, c'est un peu angoissant. Hein. Quand on regarde cette nécessité, ce lien intrinsèque pour un sacrement entre sa signification et ce qu'il réalise, il y a des jours vraiment, on se demande si elle est valide, hein, c'est sûr. On se demande si elle peut réaliser encore. Hein. La réalité de la présence du sacrifice, si elle ne le signifie pas. Enfin, je voudrais simplement vous citer en conclusion, oui, c'est un témoignage de Jean Guiton. On peut se demander un petit peu, bon, ce que, pourquoi, etc. Mais quelle était l'intention de Paul VI, voyez, en promulguant cette messe? Et voici un peu ce que dit donc Jean Guiton, je puis vous dire ceci. Le pape était soucieux par esprit œcuménique de diminuer les obstacles. Les obstacles entre les protestants et les catholiques. Bon, évidemment, pour le rapprochement œcuménique, la messe tridentine, c'est un morceau, hein, ça passe pas, il n'y a rien à faire. Hein. Et il pensait donc que la liturgie nouvelle, préparée par Mgr Bunini, à qui il donnait sa confiance, pouvait rapprocher les protestants et les catholiques, soit en adoucissant l'aspect sacrificiel et tridentin de la messe de Saint-Pie V, soit en se rapprochant des liturgies les plus anciennes où le sacrifice est implicite. Vous voyez, le but, en fait, voyez, le but de la nouvelle messe, c'est un but œcuménique. Et je dirais, c'est pas tant aujourd'hui, encore plus, hein, c'est sûr. 15 ans ou 20 ans après, c'est encore plus évident. Mais vous voyez donc un témoignage de Jean Guiton qui a bien connu Paul VI. Vous voyez, ce que voulait Paul VI, c'était ce rapprochement avec les protestants. Alors, ou bien on effaçait les mentions trop sacrificielles, vous voyez, de la messe, ou bien alors on revenait, et c'est une des raisons de ce retour aux sources, vous voyez, on revenait à des formes de célébration de la messe où la théologie n'était pas encore tout à fait développée, le sacrifice n'était pas encore totalement exprimé de façon aussi nette qu'après le Concile de Trente, et donc des formes de célébration antérieures justement à la rupture avec les protestants, et sur laquelle donc on peut se retrouver effectivement, parce que là, les définitions n'étaient pas aussi tranchées qu'elles le sont maintenant. Alors, voilà, et bien avec cette nouvelle messe, bien sûr, les protestants l'acceptent, ils disent qu'ils peuvent la célébrer. Alors évidemment, avec ça, bien c'est l'œcuménisme. Et ça c'est typique du modernisme. Hein. Ça, c'est typique du modernisme. Hein. Et c'est ça, le modernisme. Hein. C'est une chose qui est difficile à saisir, le modernisme, hein, parce qu'il n'affirme rien, il ne nie rien. Il est prêt à tout. Vous le prenez en tous les sens, il dit toujours oui. Ça, c'est ou à peu près. Sauf si vous parlez de maître de Saint-Pie-V. Là, là, non, ça ne marche pas. Ça, il dit non. Mais pour tout le reste, il est prêt à tous. Hein. Et il est certain, si vous rappelez un peu... Notre toute première conférence, là, nous avions évoqué justement cette nouvelle théologie, cette nouvelle ecclésiologie, cette nouvelle conception de la rédemption. Hein. Il est certain que la messe, enfin, le Novus Ordo, est vraiment le fer de lance, voyez, de cette nouvelle liturgie, voyez, de cette nouvelle conception de la rédemption par l'incarnation. Par son incarnation, Jésus-Christ s'est uni en quelque sorte à tous les hommes, tous les hommes. Tous les hommes sont sauvés, sont sanctifiés, sont justifiés par le seul fait de l'incarnation. La croix, qu'est-ce que c'est? C'est le témoignage. Si vous vous rappelez, on avait vu quelques citations, etc. Alors, et voilà, c'est très bien. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Mais de se retrouver, c'est tout. Il s'agit de se retrouver. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, ma foi, on se souvient de Jésus, quand même, qui a fait une chose qui était belle. Alors, c'était bien, il est monté sur la croix. Parce que les protestants y croient, ça, c'est sûr. Hein, ça. Ils acceptent tout à fait, mais on fait mémoire, c'est tout. Hein. C'est le fer de lance de l'œcuménisme. L'œcuménisme, et encore, bon, quand on ne parle que d'œcuménisme, qui est un mouvement de rapprochement entre chrétiens, sans parler de l'œcuménisme actuel, qui est un mouvement de rapprochement même au-delà des frontières du christianisme. Alors ça, c'est un tout autre problème. Voilà, ben moi, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à prier Saint-Pie-V, hein, pour qu'il nous aide à rester fidèles à la messe, pour qu'il aide sa messe, pas sa messe, la messe de l'Église, disons, à continuer à sauver les âmes, et puis que cette espèce de messe qui n'en est pas une disparaisse rapidement de notre pauvre église. Voilà, à moins qu'il y ait des questions à poser, mais il est un peu tard. Je pense qu'elle peut y être. Elle peut y être. Je pense pas, malgré tout, que par elle-même, elle soit de nature à empêcher systématiquement, automatiquement, la présence réelle. Mais je pense en tout cas qu'elle n'y aide pas et qu'elle peut parfois contrarier, effectivement. Parce qu'elle n'aide pas. Ah, comment ? Elle peut ne pas y être. Parce que le rite de la messe, il ne faut pas oublier aussi la valeur éducative sur le prêtre lui-même. Hein, pour aider le prêtre, justement, à avoir l'intention de l'Église, qui est une intention sacrificielle. Hein. Alors, pour les prêtres anciens, bon, on peut espérer qu'ils ont suffisamment de force, vous voyez, pour garder à la messe sa signification catholique. Mais les jeunes prêtres, comment cette messe peut leur donner, si vous voulez, peut les aider à avoir cette intention, vous voyez, de véritablement catholique? Alors là, moi, c'est beaucoup plus inquiétant, hein, beaucoup plus inquiétant. Les prêtres qui sont formés depuis le Concile, disons, hein, il n'est pas du tout certain qu'ils réalisent la présence réelle. Hein. S'il n'y croit pas. Le rite par lui-même est un instrument très très faible, ouais, très faible, parce qu'il ne l'affirme pas, parce qu'il ne le signifie pas. Et c'est un rite qui est ambigu, qui je crois, peut réaliser la présence, mais peut aussi ne pas la réaliser. Et il est ambigu intrinsèquement, en lui-même. Ouais, en lui-même.
Voilà, et bien, à l'année prochaine.